So we're going to go ahead and get started on this next session.
On va recommencer la session. Merci pour ceux qui ont passé la majorité de la journée dans cette salle et qui vont rester pour encore davantage d'informations. Je m'appelle Craig Schartz et je suis la liaison pour JCTL2 chez ICANN. Et maintenant, il y a également avec moi Fatima et Michael Young et Francisco Arias avec Tenet Planet et Tiny Planet. Et là, maintenant, on va parler des accords de niveau de service qui figurent dans le guide du candidat. La raison pour laquelle nous avons cette réunion aujourd'hui, c'est pour avoir des commentaires de la communauté sur une nouvelle direction que les accords de nouveau de niveau de service pour les nouveaux GTLD. Je vois que beaucoup d'opérateurs de registres et les accords maintenant fonctionnent de la manière c'est que les registres font des rapports eux-mêmes sur leur performance et selon différents paramètres dans leur accord. Donc maintenant, on essaie de passer d'un mécanisme d'autogénération de rapports à un autre qui serait mené par des mesures externes indépendantes, et cela pourrait également se trouver dans la spécification 6 de l'accord. Une partie de l'objectif pour avoir des mesures indépendantes, c'est à la fois de mesurer la performance de la perspective d'un usager de l'Internet plutôt que la manière dont c'est mesuré actuellement au sein par les systèmes de registre et ce qui motive le besoin d'avoir des informations plus rapides plutôt que les rapports mensuels qui viennent 20 jours après la fin de mois. Pour arriver à quelque chose en temps réel, c'est de permettre à ICANN de contacter les registres lorsque nous voyons que les paramètres de performance ne sont pas satisfaits et qui définissent tels que définis par les SLA, et de prendre des actions d'urgence pour s'assurer que les services continuels tels que qui sont définis dans le guide du candidat. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que Francisco Arias présente les spécifications telles que définies actuellement dans le guide du candidat, et Michael Young va produire ou présentera plutôt une proposition provenant d'un groupe de parties intéressées dans la communauté pour répondre à ce qui est contenu dans les spécifications actuellement. Il est important de savoir que, bien qu'il y ait un grand écart entre ce que nous avions proposé et ce que ces membres de la communauté qui avaient des intérêts, et il y a eu des concessions des deux côtés en ce qui concerne les paramètres et comment ces paramètres sont mesurés. Donc, après que Francisco et Michael aient présenté leur présentation, nous aimerions vraiment entendre vos commentaires de la communauté pour avoir vos opinions, vos préoccupations, votre soutien, parce que jusqu'à présent, la conversation était plutôt limitée entre ICANN et ce petit groupe de parties intéressées, parties prenantes. Donc, on aimerait ouvrir le processus et rendre la discussion plus transparente. Donc, Francisco, vous avez la parole.
Merci, Greg. Bien. Ce que le nouveau GTLD et le SLA et l'accord définit, c'est que le niveau de service concernant les nouveaux GTLD dans les fonctions critiques des nouveaux GTLD. Nous allons parler ensuite de ces fonctions critiques des nouveaux GTLD, mais ce que le SLA permet aux registrants et aux utilisateurs de savoir ce qu'ils peuvent attendre des services des registres. Les paramètres qui sont utilisés sont la disponibilité que nous définissons comme le temps pendant lequel le service est disponible par mois, le temps de réponse qui est combien de temps cela prend pour que le serveur du DNS réponde à une requête faite par l'Internet et les paramètres et qui est le temps, par exemple, combien de temps cela prend pour une remise à jour d'un nom de domaine et pour qu'elle soit présentée dans le WIS ou dans le DNS, non? Le service est pour... Nous savons que les registres ont plus d'un service que ce qu'ils... Et lorsque les nouveaux GTLD entrent en jeu, il y a des nouveaux services qui vont être présentés, mais nous savons que ces cinq fonctions critiques, hein, tous les registres vont offrir des DNS, des DNSSEC, que certaines personnes peuvent considérer comme la même chose, et nous présentons deux différents services pour permettre une différence au début des nouveaux GTLD. Et lorsque le DNSSEC commence, du moins à partir de la racine, ensuite le service WIS, le service EPP qui est fourni par le système pour les domaines qui permettent aux registrants d'avoir une modification du registre de domaine, etc. Les cinq fonctions critiques sont ce que l'escrow... Et c'est une provision qui a été faite pendant plusieurs années qui requiert que le registre fournisse une copie de sa base de données qui contient le nom de domaine, les contacts, etc., toutes les informations, à une tierce partie qui va détenir cette information. S'il y avait des conditions de catastrophe, par exemple, ICANN pourra avoir accès à cette information et le donner à un autre opérateur de registre comme cela. Et ça, c'est les paramètres, les trois paramètres qui vont être mentionnés pour les fonctions critiques, hein, à nouveau. Et l'autre chose qui est importante qu'il faut mentionner et qui a été... dont Greg a parlé, c'est les changements qui vont être évalués, comme Greg l'a dit, dans des mesures de registre. Hein, les réseaux de registre. Et ce que nous proposons dans ce système, c'est qu'il y ait des props qui soient distribués dans l'Internet qui vont permettre de mesurer ces systèmes, ces sondes, ces probes vont mesurer le système toutes les 5 minutes en fonction du service. Par exemple, le DNS sera vérifié toutes les minutes, les IPP toutes les 5 minutes. Et ce sont des choses importantes parce que nous allons avoir un système d'information centralisé pour fournir cette information et nous permettre d'agir rapidement face à une urgence. Par exemple, contacter le registraire ou le registre et voir si on peut résoudre les problèmes ou s'il a résolu les problèmes identifiés. Également, dans un cas grave, pour faire ce que l'on appelle une transition d'urgence, cela est décrit dans un document du guide du candidat. Il s'agit de passer le service du registre à un opérateur d'urgence qui sera engagé par ICANN pour gérer le registre qui pose problème. Voilà, c'est ce que sera le SLA. Le SLA, on peut voir les différents paramètres qui seront donc mesurés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir tout cela dans l'accord du registre, l'ébauche de l'accord de registre ou sur la présentation qui sera postée sur la web. Et ici, on a parlé des seuils d'urgence. Donc, lorsque cela est utilisé, lorsque, par exemple, si un registre a une des temps de panne qui durent plus de 4 heures. À ce moment-là, on va avoir un opérateur d'urgence. Il s'agit donc d'un seuil qui, pour le DNSSEC, 4 heures, et pour les autres, comme vous pouvez le voir, ce seuil va, pour les EPP, de 5 jours de temps continu. Pour le WIS, 7 jours. Et on a donc différents. S'il n'y a pas de réponse pour le registre dans notre baisse, à ce moment-là, on lance la transition d'urgence et c'est le seuil d'urgence qui a été franchi. Donc, hein. Voilà, c'est tout. Merci. Bien. En attendant mes diapos, je voudrais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Michael Young et je travaille dans cette industrie depuis 10 ans. J'ai travaillé pendant ces dernières années et j'ai travaillé à la gestion et au développement au cours de ces 3 dernières années. Donc, j'avais une équipe qui lançait donc ces services critiques dont on vient de parler. Et par conséquent, tout ce qui concerne les TLD, etc., je représente donc ce groupe. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour la communauté, toutes ces questions. Donc, nous allons passer directement à la diapo suivante. Alors, quels sont les problèmes? Nous allons voir cela. Quelles sont les solutions de ces problèmes? Et ces propositions, si vous les avez lues, je vous recommande de les lire. Si vous ne les avez pas lues, elles sont compliquées. Ce que nous avons fait dans la révision, ça a été d'essayer de les rendre le plus lisibles possible pour que les gens ne voient pas une série de questions technologiques présentées. Donc, nous vous recommandons de lire la présentation de ce document. Les questions que nous allons considérer, pour ceux qui ne sont pas au courant des problèmes techniques, les changements importants qui ont eu lieu dans les propositions de l'ébauche que nous avons fait, les transactions des registres dans le complexe, et à l'extérieur du complexe. Donc, l'image que j'utilise est, imaginez que vous allez chez le coiffeur, vous avez un salon de coiffure, vous dites à vos clients qu'ils auront, vous avez un magasin d'hamburgers et vous dites à vos clients qu'ils auront un hamburger dans 5 minutes et aujourd'hui vous leur servez dans 5 minutes. Cet objectif est donc l'objectif que vous allez avoir. Donc, c'est un. Ici, notre tâche est d'avoir un réseau public et de respecter certains engagements. Donc, ce serait la responsabilité du registrant et il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc, nous avons l'intention de vous aider dans ce domaine. Le deuxième point est, nous allons parler. Merci, Greg. Vous avez été très utile ici à San Francisco. Et tout ce que Greg a dit concernant les objectifs de cela n'est pas très clair dans le texte écrit. Donc, l'objectif révisé essaye de mieux expliquer les raisons. Et l'autre chose que nous devons analyser ici, il faut considérer qu'on doit toujours contrôler les coûts. Et donc, notre objectif ici est les coûts associés avec ce type de contrôle des opérations pour l'ICANN. Est-ce que cela va augmenter avec les nouveaux registres et nouveaux GTLD qui vont s'ajouter? Ça va donner de plus en plus de complexité. Ça va donner quelque chose de plus en plus difficile à gérer. Et je vais vous donner un exemple de cette difficulté. Chaque registraire EPP a besoin d'avoir des crédentiels pour rentrer dans son système. Et imaginez, si on a des milliers de registres, il faut contrôler leur système d'authentification pour ces milliers de registres. avec 40 ou 50 nœuds, mais en plus, les registres permettent un trafic seulement de sources connues et donc il faut qu'il y ait 40 ou 50 nœuds qui soient éclaircis avec chacun de ces registres. Et donc, on a un environnement qui augmente de 500 à 1000. Hein, et donc, on a un environnement très difficile. Donc, notre objectif ici est de mettre en place un système de DNSSEC avec qui répondent aux soucis. Un exemple de cela, ça a été un prérequis qui a été ajouté au DNS avec tous les noms de serveurs, toutes les adresses de services dans les 60 minutes. Et tous ceux qui connaissent le DNSSEC savent que les informations, la taille, tout ça, sont difficiles à obtenir. Il y a d'autres considérations qui entrent en jeu ici, qui sont très appropriées pour éviter la propagation ou pour reporter la propagation des informations du DNS pour certains nodes de DNS, pour certains nœuds de DNS, pour certaines adresses de services de DNS.
Bien. Donc, certaines choses que nous avons essayé de faire, et on a 13 pages de propositions. Donc, pour que vous ayez les moments forts, on a essayé de diviser les propositions en concepts de SLA, qui sont des considérations de performance et les escalations pour les cas d'alerte. Donc, on veut s'assurer que l'usager ait une bonne expérience et qu'il y ait une compliance contractuelle, ce qui est équitable. Et ensuite, on essaie d'identifier, ICANN essaie d'identifier lorsque quelqu'un a des problèmes, lorsqu'il y a une urgence. Donc, on essaie de séparer ces concepts, parce que ce sont des concepts différents qui doivent être soumis à des règlements et des préoccupations différentes. Donc, vous voyez, l'escalation en cas d'urgence ont une place prépondérante, parce que tout le monde veut savoir s'il y a un problème pour qu'il puisse le résoudre. Donc, pour quant à violation immédiate de contractuel, vous avez davantage de soutien et de collaboration entre différents acteurs. Donc, on approuve le concept de diviser les concepts, les idées en deux. On pense que les choses sont soit un service consommé basé par les registrants et d'un autre les registres et les registraires. Donc, qui est Whois et DNS entrent dans un service public. Donc ils ne sont pas des services authentifiés publics. Donc, ICANN peut surveiller cela à distance. C'est important de le faire parce que ce sont les deux services cruciaux de DNS. Mais Whois est très important pour les organisations. On entend souvent de la police. Et c'est un outil très important pour eux. Donc, ensuite, on prend les services PDP qui sont vraiment entre le registre et un registraire et on laisse la surveillance. Donc, les registres devraient continuer à surveiller les résultats en ce qui concerne les matrices de performance et dans le cas où un registre aurait un problème avec un registre et qu'ils ne sentent pas que leur problème est résolu dans un cadre de temps convenable, donc ils peuvent escalader le problème à ICANN en disant, voilà, on a un problème de connectivité ou de service, donc parce que les registrants ne peuvent pas approuver directement les services EPP au registre, donc nous traitons les urgences, la performance, les obligations contractuelles. Ce sont des idées séparées et sans que ICANN ait besoin de se préoccuper du pistage, retraçage, cela réduit l'exposition de coûts dans le temps. Et le mappage, c'est un petit plan petit, pour ceux qui n'avaient pas lu la proposition, comme cela a été promis, on a pris la section 1 et on a expliqué le problème de manière compréhensible pour les profanes. Donc la section 2, c'est encore un renforcement de cela avec des définitions techniques et la section 3 donne des points de référence, des seuils qui ne sont pas très différents de ceux qui ont été suggérés par ICANN. Donc nous sommes plutôt très proches là-dessus. Donc, et 4, on explique la méthodologie et rejette la méthodologie avec beaucoup de justifications et ainsi que les références à un attachement qui donne un test DNS spécifique qui suggère, qui couvre à la fois l'UDPCP et le test DNS et le test DNSSEC. C'est un nouveau concept qui n'a pas été fait auparavant entre ICANN et les registres et les registrants, mais cela a été fait certainement sur une base de bénévolat et il y a eu des problèmes par le passé dans le secteur. Donc, c'est une formalisation de l'intention. Et j'arrive à la dernière diapositive. Je vais sauter au dernier point parce que je pense que c'est vraiment le point le plus important, c'est que tout le monde, registrant et registrant, ont pour intérêt que la performance soit robuste, que l'utilisateur ait une bonne expérience. Si nous ne modifions pas cette proposition, la plupart des nouveaux GTLD auront des problèmes pour être en compliance avec cela. Donc, c'est facile de violer les paramètres. Donc, si nous voulons fixer des critères réussis, il faut que les objectifs doivent être clairs et dans la ligne de la réalité opérationnelle. Et pour terminer, comme toujours, c'est une nouvelle entreprise pour ICANN ouvre un centre d'opération pour permettre ce type de surveillance. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'étaient pas conscients au cours des dernières 9 années où j'étais impliquée dans la gestion de registres, ICANN avait toujours voulu construire un système d'outils de surveillance DNS et vous le verrez. Que cela figure dans les accords avec les registres depuis 2001, mais cela n'a pas été construit depuis lors et nous avons réussi à nous développer et à réussir sans cela. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Merci à tous. Merci Francisco et merci Michael. Donc, voilà ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est de donner la parole aux questions et aux commentaires et aux déclarations et également reconnaître qu'il n'y a pas d'une période de commentaires publics qui court maintenant pour ce document particulier. Donc, si vous seriez intéressé à soumettre quelque chose à l'écrit, envoyez à registries@icann.org et nous pouvons filtrer le processus et agir et travailler sur les prochaines spécifications pour les registres, pour l'accord des registres. Jeff Newman avec Newstar, merci pour travailler si dur sur cette question. Le groupe de parties prenantes de registres, nous sommes reconnaissants à Michael pour son travail. Nous remercions ICANN pour avoir tenu compte de nos préoccupations. Ma question est la suivante. Je sais que Michael l'a proposé, mais quelle partie dans ces propositions est-ce à l'aval d'ICANN? Qu'est-ce qui doit être retravaillé? On aimerait avoir vos rétroactions et nous vous fournirons nos commentaires également. D'après ce que Michael a suggéré, à Nuissant, nous avons examiné, nous pensons que c'était un très bon document et que cela devrait satisfaire vos préoccupations. Est-ce qu'il y a un commentaire que vous pourriez nous donner? Oui, bien sûr. Je pense que c'est très positif. Et certains éléments, surtout la section sur la justification pour cela, est expliquée. Également, la génération de rapports et la procédure d'escalade D'après ce que je sais, nous sommes en train de prendre une position finale sur la question au sujet du moratorium public de DNS et qui serait dans la proposition. Donc, est-ce que cela devrait être surveillé par ICANN pourquoi est-ce que c'est si important? Et on parlait de les registres n'ont pas de SLA pour ICANN. Donc, les registres peuvent opérer de la manière qu'ils veulent. Les SLA par rapport au EPP n'affectent pas si le website est fonctionnel. C'est la capacité. Il affecte la capacité de renouveler, d'enregistrer, d'effacer, de modifier un nom, mais cela n'impacte pas l'utilisateur final. Ceci devrait être surveillé, comme Michael a dit, parler de la complexité et la difficulté de surveiller les transactions EPP de l'extérieur, du pare-feu, du registre. C'est très difficile et se base sur beaucoup de choses qui ne sont pas sous le contrôle du registre. Donc, je ne suis pas sûre pourquoi. Est-ce que quelqu'un a exprimé le besoin que cela devrait être fait par ICANN seulement sur le EPP, pas sur les DNS? Pas sur le WHOIS DNS. Oui, la surveillance EPP permettrait au registrant d'avoir l'accès au processus d'alimentation. Donc, cela devrait être surveillé et on devrait savoir qu'au moins le registre est prêt à accepter les requêtes du registrant au nom du registrant. Oui, mais avec l'escalade, si un registrant a des problèmes dans ses interactions avec le registre, il n'obtient pas les réponses qu'il requiert. Donc, avec l'escalade, vous en saurez conscient. C'est pas la fin du monde si un registrant ne peut pas modifier ou ajouter ou un nom de domaine. S'ils sont hors circuit pendant une heure, c'est pas très excellent, mais vous serez tenu au courant. Si notre SRS, les services de partage d'enregistrement, les registreurs vont nous appeler pour nous le dire. Et Jeff, je voulais ajouter à ceci, les registreurs sont déjà obligés contractuellement d'annoncer et dans cette proposition à escalader eux-mêmes jusqu'à ICANN s'ils ont une interruption du service. Oui, exactement. Autre chose, c'est que pour pouvoir être en mesure d'utiliser les seuils d'urgence, nous devons savoir rapidement lorsque les choses sont... Il y a une erreur. Une des fonctions cruciales, c'est EPP. On veut savoir lorsque le registre n'offre pas les services EPP, lorsqu'il n'est pas disponible. Donc, on peut agir rapidement en cas d'urgence. Mais excusez-moi, je vais revenir. Non, allez-y. Je dirais ceci que EPP pourrait revenir à la charte avec les SLA parce que les SRS... Le système de services partagés ne fonctionne plus. Les SLA, les seuils d'urgence, c'était plusieurs jours consécutifs, 5 jours. Donc, même sans une surveillance ICANN sera du registreur, au moins d'un registreur, si le SRS est en panne pendant 5 jours, d'après moi. Donc, on va retirer cela. C'est un très bon argument. On ne va pas résoudre maintenant, mais c'est très bien. Merci, Jeff. Je m'appelle Kevin Brown. Je suis de Saint-Olnick. Donc, je voudrais réitérer les mêmes arguments. Il est évident que si vous avez une fenêtre de 5 jours pour l'escalade, la surveillance du système EPP tous les 5 minutes n'est pas très productif. L'opérateur de registre qui n'est pas obligé d'avoir un SLA, nous avons une manière de toutes les façons de fournir des services. Donc, ça va tuer leur opération. Donc, il y aura un effet économique. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de vous occuper, de surveiller si intensivement les choses en profondeur. Les régisseurs vont faire cela pour vous. Si vous pouvez avoir une bonne communication avec vous et les registraires et les entre vous et les registres, vous aurez tout ce qu'il faut pour procéder à l'escalade en cas de besoin.
Je suis Raïm Moram. Peut-être qu'une différence de ce qui vient d'être dit, je pense que si ICANN a besoin de savoir ce qui se passe au niveau du registre, je viens dire que les mesures que vous proposez, le principe en lui-même est correct et je ne vais pas... Si j'étais ICANN, je ne voudrais pas dépendre du fait que les registraires notifient ou le registre notifie et comme le mécanisme de notification fonctionne, parce que c'est un problème grave, sérieux. Mais du point de vue de Jeff, je pense que vous devez penser à remplacer la composante EPP par la composante DNS. C'est là que c'est le problème. C'est ce qui compte vraiment en termes d'impact pour le consommateur, pour l'utilisateur, pour l'industrie. Et ça peut être quelque chose qui va avoir beaucoup plus d'importance pour le monde entier si on le compare au EPP. Le EPP est un problème contractuel, c'est tout. Mais comme Jeff l'a dit, si le EPP se plante, tombe en panne, c'est pas bien grave. Si le DNS se plante, là, c'est grave. Hein, ça va faire la une des journaux et on risque d'avoir beaucoup plus d'impact si cela arrive. Et vous suggérez donc qu'on devrait continuer à avoir un SLA pour le EPP et comme avec une méthodologie de mesure et telle qu'elle est actuellement. Non, ce que je disais, c'est que je suis d'accord avec ce que Jeff a dit, que les mesures de EPP sont... il me semble qu'en tant qu'opérateur, c'est bien d'avoir des mesures de ce type, mais... le résultat de l'EPP, des mesures d'EPP, peu importe, les opérateurs de registre font de l'argent avec ce système d'EPP. Les registraires, il y a une chaîne virtuelle ici, il y a un bénéfice économique qui apparaît ici. Donc le meilleur intérêt de ces parties pour que cela continue et que cela continue à fonctionner. Mais si l'on regarde le DNS, l'impact sur l'usager final est beaucoup plus important. Est beaucoup plus important que l'EPP. Donc, on doit se soucier beaucoup plus du DNS parce que son impact est beaucoup plus grand. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Jeff, une chose, on parle de l'EPP comme disponibilité dans le temps, mais si on revient aux SLS, en ce qui concerne le temps de réponse des EPP, le temps de réponse des EPP dépend de différentes choses. Cela dépend du type de business, par exemple, la question de points travel qui est au milieu de l'EPP, du temps de réponse de l'EPP. Et il faut contrôler s'il y a quelque chose qui a été changé avant de répondre. Et donc, cela ne va pas répondre à ces critères et pour une bonne question de business. Et le deuxième point, c'est que cela ne tient pas compte non plus de ce qui a un impact sur l'usager final. C'est pas seulement ce que le registraire fait, mais ce que la capacité du registraire de faire des commentaires de l'EPP, envoyer ses commentaires au registre, reprendre ses commentaires et les traduire dans l'action pour le registraire. Donc, même si le registre répond à son temps de réponse complètement, respecte son temps de réponse, l'usager final peut avoir un impact au niveau de à cause de l'action du registraire. Donc ici, c'est un petit peu ce qui a été dit. C'est bien d'avoir ce système, c'est important d'avoir un système comme ça pour l'opérateur final. Et cela va engager tout le monde. Mais il est important au niveau de l'engagement pour l'usager final. Je pense que quelque chose qui doit être modéré c'est quelque chose qui doit être modéré de façon interne par ICANN, de façon externe, pardon, par ICANN dans le système interne. Voilà. Merci. Juste pour reprendre ce que Jeff a dit, Et lorsqu'on parle de temps de réponse de DPP, quand, si on a un TLD avec le processus Sunrise, on a une bonne chance de revenir en arrière, ce qui signifie qu'on va avoir un niveau de service proportionnel. Et donc, il faut s'assurer que si l'on veut utiliser, avoir un bon service, on doit pouvoir avoir une influence sur les conditions de Sunrise, par exemple. Autre chose, je suis d'accord avec le fait que c'est quelque chose de bien à voir. On a un système de contrôle des EPP, on a différentes locations, différentes localisations, on contrôle le temps de réponse. C'est très important pour nous de mesurer la santé du système, de savoir comment il fonctionne en termes de capacité et de futur. Et donc, on fait cela volontairement parce qu'on a besoin de ces informations pour notre business. Et je suis d'accord avec vous pour dire que du point de vue opérationnel et du point de vue de l'analyse, ça vaut la peine de faire ce genre de choses. Je ne sais pas. Et je pense vraiment que ça peut être utile. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, d'autres commentaires? Craig? Merci, Craig. Aaron de Affilias. Lorsqu'on regarde les rapports d'ICANN qui sont les chiffres qui sont publiés, qui sont à notre disposition, ICANN, est-ce qu'ICANN a l'intention de publier ces chiffres pour les nouveaux TLD? Nous allons publier, je pense que la proposition vient de Michael Young. Il y a une consultation sur la publication de ces mesures et des chiffres concernant ces mesures. Je pense que le rapport il faudrait tenir compte de certaines considérations pour les mêmes raisons. Une des observations, c'est que si l'on mesure sur Internet, on va avoir des résultats différents en fonction de l'endroit où se trouve, le registre. Donc, un des effets potentiels de cette information et de sa publication, on va avoir des comparaisons entre registres qui ne vont pas être égales. Et donc, il y a certains registres qui vont entrer en concurrence les uns avec les autres. Et donc, un des problèmes, quand on compare cela, c'est comme comparer les oranges avec des pommes. Les gens ne comprennent pas très bien ce que ces chiffres représentent, finalement. Alors, je pense que je voudrais préciser que cela a été l'idée et de ces sondes et sur Internet ne vient pas seulement de Marina del Rey. Francisco, ce que je voulais dire, c'est que le comportement des utilisateurs pour les registres peut être marginal, peut être de relocaliser leur serveur pour être prêt des systèmes de contrôle parce que c'est moins cher de faire cela dans certains cas. Ça peut même coûter moins cher que les gains de performance. Bien. Si on revient à la question qu'on a abordée tout à l'heure d'urgence, la possibilité d'avoir la EPP disponible peut avoir un impact important sur les utilisateurs. Si l'on a un registre et si vous voulez, si vous avez des domaines, mais il y a une possibilité, au lieu de faire des différents niveaux, et le registre doit pouvoir mettre en place un système qui va affecter cela. Par exemple, ICANN ne pourra peut-être pas avoir un système temporaire à certaines époques de l'année, par exemple à Noël. Donc, je vais pouvoir avoir un système de soutien qui va fonctionner à sa place et qui va permettre de rattraper le temps perdu à la fin de la période de jours fériés. Donc, c'est une autre alternative qui permet de travailler comme cela. Et l'autre processus d'escalation ou d'escalade, pourra à ce moment-là avoir lieu. Mais il y a des choses que ICANN doit pouvoir faire. Et pour que les choses continuent à fonctionner en permanence. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cette discussion était très utile. Certains points avaient déjà été abordés, d'autres sont nouveaux. On a mentionné, par exemple, ces circonstances non indésirées. Ça peut être quelque chose d'intéressant. On n'y a pas pensé, donc j'apprécie ce type de remarques. Michael, Francisco, vous voulez faire une remarque de clôture, de conclusion? Je vois Norm Ritchie qui arrive au micro. Norm Ritchie prend la parole. Je voudrais faire un commentaire rapide. Nous voyons qu'il y a 100% de disponibilité de DNS. Je pense que c'est correct, mais on ne peut pas mesurer cela. Ce n'est pas possible. C'est un bon objectif, mais ce n'est pas possible de mesurer cela. Cela ne peut pas être fait par un système de sondes. Je ne pense pas que ça puisse être mesuré par un système de sondes. Il faut essayer, il faut le faire, il faut sonder le système en permanence. Je pense que vous parlez de... Vous devez faire un système de sondes constamment, hein, pour voir... Oui, je comprends ce que vous dites, hein, oui. Le basculement et les sondes. Merci, Norm. Bien. Ce que Norm dit, c'est qu'il y a une différence entre 99.9.9.9% mais pour garantir 100%, mathématiquement, il faut garantir que la remise de l'autre côté correspond 100% à ce qui a été envoyé. Donc, c'est une question de limite mathématique. On peut pas avoir 100%. C'est difficile. Bien. Si on veut avoir 100%, il faut avoir que tout soit résolu et que tout soit chargé à la destination, ce qui est bien, mais impossible. Werner, une question. Quelle est la justification d'avoir un tel niveau de disponibilité, de prérequis de tel niveau pour l'ITT, pour tous les registres, de l'IPP pour tous les registres? Si ces registres ont un petit nombre de changements seulement, pourquoi est-ce qu'il nous faut tenir compte de tout cela alors que c'est un coût élevé pour les opérateurs de registres, hein, et sans notification? Actuellement, en réalité, cela est basé. Le SLS est basé pour les GTLD. Oui, les GTLD actuels ont ce niveau de problème, mais on a 5 millions de domaines et on peut avoir des registres qui, pour de bonnes raisons, ont des volumes plus petits et il n'y a aucune raison pour cela. Il est important d'avoir un DNS 100% disponible, mais il faut pouvoir faire des changements et le fait d'attendre une demi-heure peu importe, hein. Un des plus grands registres, lorsqu'on envoie les choses à travers ce registre, ça va avoir un effet 2 ou 3 fois par jour, c'est tout. Donc il n'y a pas de raison d'avoir ce prérequis de disponibilité aussi élevé. Il me semble que nous abordons des questions intéressantes ici. Hein, oui. Bonjour, je suis Mathieu. Je suis le directeur de dot.fr et ma question est pour ceux qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo d'escalade? Parce que j'ai été intriguée par le DNSSEC et je n'ai pas réalisé, lorsqu'on parle de transférer le transfert d'urgence des opérations de registre, je me demande, est-ce que cela marche avec le DNSSEC, avec les registres qui ont signé le DNSSEC, comment ça marche? Parce que j'ai toujours compris qu'ils ne font pas des transferts s'il n'en a pas la clé privée, etc. Donc ma question est, est-ce qu'un transfert d'urgence est possible avec le registre qui est signé DNSSEC? Oui, oui. Et comment ça marche? On re-signe l'ensemble. On doit parler de cela plus tard, si vous voulez, mais c'est tout à fait possible. Cela prendra un bon moment d'abord. Et il faut révoquer le DNS dans le point, dans la racine. C'est quelque chose de compliqué.
Je pense que c'est un très bon argument. Vous devez impliquer IANA, le département du commerce également, mais une des observations que je voulais faire, beaucoup de gens ici sont de la discussion précédente, mais il y a des membres du GAC qui essaieraient de réduire les normes techniques pour aider les pays en voie de développement à appliquer, en plus de fournir des fonds. Mais vous voyez, ça, c'est pas facile. Ces choses-là, c'est pas facile. Et je ne sais pas. Il y a une corrélation entre le fait que vous ne pouvez pas réduire les standards techniques, mais à s'attendre à que eux ils répondent à ce type de SLA. Donc il faut que le JASP et le gouvernement, le GAC, ça ne marche pas. Il faut leur dire que ça ne marche pas comme ça, parce qu'ils exigent que ces registres continuent à fonctionner et ils veulent la redevabilité et la compliance. Mais on doit baisser les normes techniques pour que les pays en voie de développement appliquent. Donc, on ne peut pas avoir les deux. Donc, on a dépassé le temps et dans ce hôtel, on ne peut pas le faire sans encourir des frais additionnels très importants. Donc, on doit clore. Donc, Ram, OK, je vais parler de ASAC. Je pense qu'il ne faut pas réduire les normes, les standards techniques. Peut-être que c'est un petit registre aujourd'hui, mais les attentes de l'utilisateur final, c'est que le registre soit sûr et stable et résilient. Et je crois que dans ces domaines, il est important de garder les normes à un niveau très élevé. Et je crois que le monde regarde vers ICANN pour qu'ils fournissent la coordination, assurent un niveau très élevé, et je refuserai tous les efforts pour baisser les standards. Merci à tous les participants, à Michael et à Francisco. Nous avons encore du travail à faire ensemble, donc comme j'ai dit auparavant, si vous avez des commentaires supplémentaires que vous voulez nous envoyer, envoyez à registries@icann.com. Donc, merci à tout le monde et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.